Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux villes au cœur du capitalisme et de ses transformations des 40 dernières années. Et pour en parler, nous sommes avec Cécile Gintrac, géographe et militante contre l'urbanisme capitaliste à Saint-Denis. Et donc dans une première partie, on a évoqué pas mal de thèmes, la question de la géographie critique, de comment est-ce que ça permet de comprendre l'actualité et de qu'est-ce que ça donne comme outil un petit peu de lutte contre les transformations urbaines opérées par le capitalisme et sa soif de plus-value immobilière, et aussi lié au tourisme, hein, dont on en a pas mal parlé dans la première partie. Et là, on aimerait bien donc revenir un petit peu sur les différentes approches de la géographie critique qu'on a définie dans la première partie, faire un peu une espèce de tour d'horizon, en revenant sur des choses dont on a déjà parlé pour les développer un petit peu, et puis aussi pour parler de différents courants qui sont dans le livre « Ville contestée pour une géographie critique de l'urbain », donc qui est co-dirigé par notre invité. Et donc peut-être qu'on pourrait faire ce repartir hein, de Harvey et de Neil Smith dans ce tour d'horizon, peut-être en commençant par préciser cette notion de rente foncière, qui est, parce que la rente pétrolière, tout le monde voit ce que c'est, la rente foncière, pas forcément.
Oui, alors je vais essayer de clarifier les choses. Bon, il faut bien dire que tout terrain, en fait, porte en lui un profit hein, qui est celui de la location, éventuellement de la vente. Cette location du terrain, elle peut se faire à plus ou moins long terme. Et évidemment, en fait, cette location, elle est, ou ce retour, en fait, ce retour sur investissement, il se fait aussi à travers les bâtiments hein, qui accueillent ces terrains. Donc, en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le terrain lui-même qui peut exister, par exemple, pour les terrains agricoles. C'est toujours possible. Mais il y a aussi donc, les terrains qui accueillent des bâtiments. Ces bâtiments eux-mêmes sont porteurs d'une valeur, soit d'une valeur foncière. Et donc, dans l'idée de différentiel de rente foncière, c'est en gros, si je vais très simple, hein, ce qui en est tiré à un intenté hein, en termes de loyer et ce qu'on pourrait en tirer dans un futur proche. Et c'est ce différentiel qui devient intéressant, c'est ça qui... C'est ce décalage dans le temps, en fait, qui devient intéressant. Parce qu'en fait, on peut se projeter et là, on peut investir sur un terrain ou sur un immeuble et savoir, en fait, qui va nous rapporter davantage après. Donc, ce qui compte souvent, mais d'ailleurs, c'est tout à fait la stratégie des investisseurs. Alors là, c'est même pas... Il suffit d'aller lire les magazines d'investissement. Ce qui compte, c'est très intéressant, c'est toujours très géographique, en fait, quand on regarde les magazines, en fait, on nous donne... En gros, le cadre, donc quand il faut investir dans le Grand Paris, c'est quelles sont les communes intéressantes. Ben, c'est typiquement, en fait, on peut vraiment le lire à la lueur de la question du différentiel de rente foncière et du special fix de David Harvey. En gros, ce qu'il nous dit, c'est l'arrivée des transports potentiels, donc les investissements massifs qui vont être faits et, grosso modo, les capacités, l'augmentation en fait, des prix immobiliers. Et tout ça, en fait, permet un différentiel de rente foncière. Et plus le différentiel est important, plus entre ce qu'on a intenté et ce qu'on a dans le futur, il y a un potentiel de profit, bah plus il est intéressant d'investir maintenant. En fait.
Oui, ça c'est la théorie de Neil Smith dont on a déjà parlé dans la première partie de l'émission et qui est effectivement extrêmement intéressante pour comprendre comment est-ce que le capitalisme peut réaliser des plus-values immobilières très importantes dans des endroits où auparavant... C'était des quartiers ouvriers et tout ça, et ça, on constate ça partout, et à Barcelone notamment, et dans d'autres villes. Et ça, ça renvoie aussi à la... Bon, alors évidemment, ça permet d'expliquer la gentrification, et aussi ça renvoie au concept de Neil Smith du développement inégal. C'est-à-dire que finalement, le capitalisme, dans son développement inégal de l'espace, c'est-à-dire... il va y avoir des zones qui vont recevoir énormément d'investissements immobiliers et des zones qui vont recevoir peu d'investissements immobiliers. Et bien, ces zones qui ont reçu peu d'investissements immobiliers vont en fait potentiellement, la dégradation de l'habitat, typiquement un quartier ouvrier bien situé. Alors évidemment, il y a des conditions, hein, les transports, la situation, etc. Mais ils vont pouvoir être des opportunités de profit ultérieures Et ce qui fait que ça permet de complexifier un petit peu, je trouve, la théorie du développement inégal, qui est une théorie un peu générale dans le marxisme, selon laquelle le capitalisme finalement hiérarchise les espaces. Il y a des espaces de commandement, des espaces périphériques de production et des espaces totalement marginalisés. Eh bien, comment est-ce que finalement ces espaces plus marginalisés ou plus dominés vont constituer en même temps des potentielles opportunités de profit? Et alors, ce qui est intéressant, justement, David Harvey le dit bien, et Naismith aussi, c'est que ça marche surtout à l'échelle urbaine, en fait. Hein, parce qu'à l'échelle mondiale, évidemment, que la Centrafrique, même si elle est ultra marginalisée, ne constitue pas vraiment une opportunité de profit. Par contre, ça marche, évidemment, à une échelle spatiale très concentrée.
Oui, parce que la ville, en soi, est déjà une concentration de richesses. Donc, en réalité... on a du développement inégal dans une zone qui est logiquement concentrée. En fait, j'ai envie de dire, il suffit de pas grand-chose. Non, souvent, les investissements sont lourds, mais il suffit de réorienter un petit peu les investissements dans la ville, compte tenu de la proximité, pour en faire des terrains profitables. C'est vraiment l'application de cette rente foncière. Et c'est vrai qu'en fait, ce que dit bien Neil Smith, c'est que le bâti lui-même se détériore si on ne l'entretient pas, en fait, si on ne fait pas d'investissement. Le bâti lui-même se détériore. Donc il faut un certain... En fait, il y a une forme de dégradation, entre guillemets, naturelle du bâti. Sans investissement, au bout d'un moment, effectivement, souvent l'immeuble ne vaut plus un clou. Alors, cela dit, c'est là qu'il faut comprendre un certain nombre de choses. À un moment donné, d'ailleurs, Neil Smith, il le dit. Il dit qu'il faut comprendre ce processus de développement inégal aussi selon des logiques de race, de classe, évidemment, mais aussi de race. C'est-à-dire qu'évidemment, un quartier identifié comme immigré, par exemple, en France, ou un quartier de ghetto aux États-Unis, et ça, c'est deux fois plus dévalorisé, entre guillemets. Et généralement, c'est là qu'il y a une dévalorisation du bâti, c'est-à-dire que les propriétaires n'entretiennent pas. On le voit très bien dans l'habitat insalubre aussi, hein. C'est-à-dire que le fait de ne pas entretenir, ça ne fonctionne aussi que parce qu'on a des locataires qui sont dans une telle précarité qu'ils ne peuvent pas se loger ailleurs. Et souvent... À la précarité se rajoute aussi le fait d'être sans papier. Et c'est là, généralement, qu'on peut tirer de l'argent d'un bien en fait, qui n'en vaut pas. En fait, ou de tirer 600 euros ou 700 euros d'un studio complètement dégradé avec des cafards et des rats. En fait. Il y a toujours cette théorie, ces éléments théoriques vraiment, qui permettent de comprendre en fait, la trame générale. Il faut toujours le recontextualiser dans des relations sociales, de classe, de race. Parce que sans ça, en fait, on a du mal à comprendre pourquoi les gens paieraient 700 euros pour un studio pourri, en fait. Donc, si on n'est pas dans une précarité juridique telle, ou qu'on n'est pas dans un système où, par exemple, on ne peut pas se loger par ailleurs, en fait, le taudis ne s'explique pas.
Oui, en fait, finalement, la rente foncière, elle peut tirer profit de toutes les formes de situations. Oui. Des situations, elle peut tirer profit justement du fait que le capitalisme va placer ou a déjà placé ses centres de commandement avec des cadres très bien rémunérés, des centres financiers, etc. Elle peut en tirer profit, mais elle peut aussi tirer profit de la misère des situations juridiques précaires.
Tout à fait. Donc ça, c'est un point important du développement inégal, parce que dans le développement inégal, voilà, ce qui peut être intéressant, c'est d'envisager le développement inégal dans toutes ses dimensions. Et pour le coup, je sais pas si ça nous fait une transition, mais dans une dimension un peu intersectionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement à considérer les choses. C'est sûr que la question de la classe, elle est importante, mais en fait, on comprend assez mal, par exemple, la rue d'Aubagne ou Marseille ou même Saint-Denis si on ne prend pas en compte la question immigrée, en fait, et si on ne prend pas en compte le statut des immigrés. Bon, ça, je décale un petit peu de la théorie de la rente foncière, mais il le dit à un moment donné, Neil Smith, il dit qu'en fait, par exemple, il envisage vraiment cette question de la dévalorisation selon aussi la question de la race. Il en parle. Donc, tout ça, c'est des éléments, en fait. On peut avoir une sorte de grande théorie de la valorisation, dévalorisation, du taux d'investissement, du taux de profit. Mais ça se comprend toujours dans une contextualisation sociale. Et c'est ça qui donne, en fait, je pense, la pleine mesure d'un phénomène et qui donne aussi les variations d'un lieu à l'autre. C'est ça qu'on peut comprendre, du coup, que la gentrification, elle ne soit pas identique dans un lieu ou dans un autre. C'est d'ailleurs, puisqu'on parlait de Mathieu Giroux, en fait, il y a eu un autre livre qui s'appelle Gentrification avec un S, qui est paru chez Amsterdam, de manière posthume. Alors, c'était un livre, là aussi, à plusieurs voix. Et donc, Mathieu était là à coordonner à la fois l'ouvrage, et il a aussi participé. D'où l'intérêt de mettre un gentrification avec un S, c'est-à-dire que le nombre de cas de figure, d'évolution de la gentrification, les réglementations, les situations sociales, raciales, sont tellement différentes d'un lieu à un autre qu'en fait, il n'y a pas un processus de gentrification, même si on peut avoir un cadre théorique pour le penser. Il y a en fait une profusion de situations de gentrification qui sont jamais tout à fait équivalentes. On pourrait parler tout à l'heure de Saint-Ouen et de Saint-Denis. Même entre les deux villes, en fait, Saint-Ouen qui est maintenant un maire de droite et Saint-Denis qui a toujours une politique de préemption ou elle menace de préemption, même si elle ne le fait pas forcément, mais elle menace de préempter si on dépasse un certain niveau de prix, ça a quand même son effet. Ça fait un petit effet. Donc ça, c'est vraiment la marge. Mais en fait, c'est une sorte de... La gentrification, c'est le produit d'une variété de facteurs qui vont du social, du racial, des politiques publiques, des évolutions, des tissus économiques, de chacune des villes ou de chacun des quartiers même.
Oui, d'ailleurs, vu qu'on revient sur ces exemples de Saint-Ouen et de Saint-Denis, je trouvais ça intéressant, notamment de mettre ça à la lumière de... La question un peu du racisme environnemental qui a fait l'objet d'un livre auquel on a consacré une émission, donc La nature est un champ de bataille, où justement il y avait l'idée que les activités urbaines les plus polluantes, qui dégradent le plus le quartier, sont localisées dans les endroits où la population racisée est la plus importante. Et là, presque on pourrait dire... Le caractère vraiment tordu du capitalisme, c'est que c'est les populations racisées et prolétaires qui vont avoir tendance à donc concentrer tous les pires problèmes urbains en termes de promiscuité, de mauvais bâti, pas de réparation, pas de rénovation du bâti, et des problèmes environnementaux. Par exemple, à Saint-Ouen, il y a un incinérateur, c'est pareil à Ivry, etc., etc. Et en même temps, à un moment, et c'est déjà arrivé par le passé, ça va être potentiellement cette situation catastrophique qui va être un vecteur de par le fait que c'est proche de Paris ou proche d'une nouvelle zone économique. Voilà, par le différentiel entre la rente actuelle qui est dans ce genre d'endroit du coup relativement faible, en tout cas par rapport aux espaces à proximité, et la rente foncière potentiel si ça devient un écoquartier ou un centre d'affaires, comme ça commence d'ailleurs un petit peu à Saint-Denis. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir, parce qu'il y a déjà un quartier d'affaires à Saint-Denis assez important. Est-ce qu'il était déjà là? Est-ce qu'il n'y a pas eu là, justement, dans la transformation de Saint-Denis, déjà, en fait, une opération de rente foncière différentielle?
Ah bah complètement, parce qu'en fait bon, c'était des terrains industriels qui valaient plus un clou, ils étaient pollués. Alors la dépollution a été faite généralement partie quand même par les autorités publiques. Là je vais prendre un cas ultra concret récent dans lequel je suis plongée, c'est un petit quartier qui s'appelle la Plaine Saunier, qui va accueillir le centre aquatique olympique. C'est un quartier qui est entre l'A1, la 86, les voies ferrées et une rue qui sert quasiment de bretelle autoroutière de fête. Qui s'appelle la rue Saunier. Donc, ils vont accueillir il va être construit le centre aquatique. Ça a été racheté par la métropole du Grand Paris. Au début, la dépollution, normalement, c'est un terrain en fait qui avait été en bail amphithéotique. C'est un terrain de la mairie de Paris qui a été donné en bail amphithéotique à Engie. Engie va partir et c'est un terrain qui est ultra pollué. Ils vont pas faire la dépollution parce qu'il faut aller très vite. Donc, c'est la métropole qui va payer la dépollution du site, donc l'argent public en fait. Une grande partie du centre aquatique va être payée en partie par le comité olympique international, mais aussi par la puissance publique. Ça va donner la possibilité d'investir dans du bureau et de faire un quartier de bureau encore. Et partiellement un peu de logement. Bon, c'est discuté. Et partiellement un peu de logement. Bon, la pollution, est, comme il n'est pas du tout question en fait, de repenser les circulations, nous, c'est un peu notre là-dessus qu'on milite en fait en termes d'inégalité environnementale. Comme il n'est pas question vraiment de repenser les circulations en l'état, il faut juste faire une passerelle au-dessus de la 1 pour accéder au quartier. En fait, ça va être un lieu ultra pollué, Mais sous le couvert de l'environnementalisme, de matériaux propres, etc., on va pouvoir en faire un quartier rentable. Et le terrain, à l'heure actuelle, il coûte à peu près 14 millions. Alors, je ne me rends pas trop compte, mais je pense que ce n'est pas énorme, compte tenu de la taille à l'hectare. Et en fait, mais par contre, là, on retourne dans l'intérêt de ce que dit David Harvey, c'est que pour ça, il faut quand même un centre aquatique. Il faut une passerelle qui est financée par le système local. Et du coup, ça permet quasiment de faire un peu oublier le fond du problème, qui est quand même le fait que c'est l'un des endroits les plus pollués de France. Voilà, bon, ça, ils ne veulent pas s'y attaquer parce que c'est un peu plus compliqué.
Non, c'est vachement intéressant parce que ça fait la transition avec une idée très importante que David Harvey développe dans l'article qui a été traduit pour « Ville contestée ». Qui est contre la ville entreprise, où justement il montre comment est-ce que l'État a évidemment toujours été, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, un acteur central pour la création des conditions du développement du capitalisme. Mais maintenant, c'est les municipalités, depuis les années 70, sont devenues des acteurs encore plus importants là-dedans. D'une espèce de gestion plutôt en termes de planification urbaine, à vraiment une gestion managériale, où finalement il y a une espèce de concurrence mondiale des villes entre elles pour attirer les capitaux. Et du coup, ça demande des investissements publics extrêmement lourds. Etc. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que je pense que c'est très important.
Et alors, ça a été repris dans un autre texte de Ville Contestée, hein, sur les grands projets, sur l'urbanisation néolibérale de Swingedou, Moulert et Rodriguez. Donc ça, c'est un projet un peu européen. Donc avec les opérations de grands projets qui, en fait, ça s'inscrivent en fait, dans une vraie perspective de concurrence interurbaine. Effectivement, maintenant, c'est les métropoles qui assument... une partie des coûts. Alors parfois l'État quand même vient en renfort, hein, en tout cas dans le cas français. Donc il y a un outil pour ça qui s'appelle les OIN, hein, les opérations d'intérêt national. Donc Euroméditerranée par exemple, Marseille c'est une opération d'intérêt national. Les JO ça va être des opérations d'intérêt national. La défense c'est une OIN aussi. Donc de temps en temps l'État vient quand même à la rescousse pour les grosses infrastructures. Mais effectivement c'est surtout les villes, hein, qui développent à la fois des discours ou des projets emblématiques pour attirer. Alors ça se fait surtout sur des quartiers en fait où il y a eu un potentiel de rente foncière, donc des quartiers dégradés, enfin qu'on considère comme dégradés. Généralement, donc dans cet article qui est vraiment issu ou qui s'inspire vraiment des travaux de Harvey, c'est en fait il y a des grandes tendances. Hein. L'État est toujours garant. Il y a aussi la possibilité d'une rente foncière. Donc là aussi c'est guidé par le grand projet et vraiment guidé par ça. Et souvent pour financer, il y a une partie du financement qui vient de l'extraction de cette rente foncière. Et puis ensuite, ce qui est intéressant en termes, là aussi, militants, c'est que c'est caractérisé par une gestion autoritaire et une forme d'exclusion. On a une grande opacité en fait, de ces projets, d'une grande complexité, qui rend complètement illisible pour le citoyen lambda qui n'a pas du tout envie de s'y intéresser. Donc c'est compliqué. Et évidemment, les réunions de concertation ne sont pas du tout faites pour qu'il y ait vraiment des changements. C'est que des changements à la marge. Ça ne remet pas du tout en compte l'esprit des projets. Et donc ça, en fait, c'est un article qui fait le bilan en fait, de plusieurs grands projets en Europe. Et en fait, on retombe tout le temps sur les mêmes dynamiques. Donc quand on part en fait, du terrain, on se rend compte que ça fonctionne assez bien. Et c'est toujours les mêmes grandes tendances qu'on observe. Donc voilà, la dynamique du grand projet, de la ville entrepreneuriale, de l'image. Alors il faut des bâtiments emblématiques, une tour, une grande infrastructure sportive, par exemple, un stade. Ça peut s'associer aux méga-événements.
Ah oui, les festivals.
Voilà, les festivals, la capitale européenne de la culture, les Jeux olympiques, tous ces méga-événements sportifs, culturels, etc., qui permettent aussi une concentration des investissements. L'idée, c'est que surtout les investisseurs privés, ils investissent que s'ils sont sûrs de récupérer leurs billes, en fait. Donc pour ça, il faut généralement, effectivement, un État garant. Et si possible, un moment qui puisse garantir, en fait, que les choses vont bien et bien se réaliser. Par exemple, pour les JO, alors on peut le voir comme un moment festif, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, pour les JO, on sait que les infrastructures vont être livrées en temps et en heure. C'est une garantie absolue, en fait, qu'en 2024, tout ce qui a été prévu va être fait. Donc un investisseur qui ne veut pas prendre trop de risques, il se dit, mais c'est bingo, en fait, je sais que ça, de toute façon, en 2024, ce sera plié, que les financements publics, ils seront là, que s'il faut remettre de l'argent dans la caisse, ils peuvent pas laisser s'effondrer le truc. Donc, ils peuvent pas laisser des JO sans investissement ou sans village olympique ou sans centre aquatique. Donc, le truc, il va avoir lieu. Donc là, en fait, quand on met ses billes dans le quartier du village olympique ou dans le quartier du centre aquatique, on est sûr de récupérer sa mise, en fait. Le méga-événement, il joue aussi des fois comme garantie, en fait, comme garantie temporelle.
Oui, comme à Pékin en 2008, où il y avait des énormes opérations immobilières. Barcelone en 92, c'était pareil. Oui, Rio. Les Jeux Olympiques, on avait fait une émission avec Jean-Marie Brom, un peu de critique des Jeux Olympiques. Effectivement, c'est des opérateurs de restructuration de l'urbanisme merveilleux. À Rio de Janeiro aussi.
Ouais, voilà, c'est une accélération très nette. Ça permet en fait aux investisseurs d'être sûrs de leurs investissements, en fait. Donc, dans le cadre d'une opération où on va essayer de développer ou de tirer profit du différentiel de rente foncière, rien de mieux qu'un méga événement pour garantir l'effectivité des investissements publics.
Oui, et d'ailleurs, tout ça, ça fait écho à pas mal de choses dont parle David Harvey. C'est d'une part que, enfin, il parle quand même de certaines tendances historiques, il parle de géographie historique, et d'ailleurs c'est assez intéressant, que depuis donc 40 ans, il y a un certain nombre de tendances qu'il observe. Déjà, cette idée que finalement, les villes sont toujours plus les centres du capitalisme, surtout les métropoles d'ailleurs, hein, plus que les villes d'ailleurs, mais qu'il y a une espèce de métropolisation du capitalisme, de concentration du capital en fait. C'est pour ça que maintenant... d'ailleurs, dans les cours de géographie qu'on a au collège et au lycée, on insiste tant sur les métropoles, parce qu'effectivement, c'est devenu les nouveaux cœurs du capitalisme. Et ça, c'est lié à quelque chose dont parle déjà Marx, d'ailleurs, dans les Gronderies, c'est l'anéantissement de l'espace par le temps, c'est-à-dire le fait que dans le capitalisme du 19e siècle, les dynamiques n'étaient pas les mêmes parce que, en fait, il y avait une espèce de monopole ou quasi-monopole naturel encore... pour un grand nombre de choses au moins, liées au coût de transport, temps de transport, etc. Donc, par exemple, c'est pour ça que David Harvey donne l'exemple, par exemple, de la bière. Tout le monde consommait une bière locale. Pas parce qu'ils aimaient la bière locale, mais simplement parce que il y avait une espèce de protection, il y avait une espèce de monopole naturel. Et du coup, il y avait une concurrence entre les villes qui était beaucoup moins forte, parce que finalement, les villes ne pouvaient pas vraiment se concurrencer sur plein de choses. Il y avait une concurrence industrielle sur certaines choses, évidemment. Il y avait évidemment un marché mondial où il y avait une compétition. Mais il y avait un certain nombre de choses où il n'y avait pas encore cette compétition. Et ce qu'il y a de nouveau, justement, avec cet anéantissement de base par le temps, cette espèce de concurrence interurbaine sur tout, qui fait que... et ça, c'est un aspect de la mondialisation qui est pas forcément tout... Enfin, on voit beaucoup l'aspect « le capital est mobile » dans la mondialisation, on voit moins que derrière, il y a quand même des endroits fixes qui accueillent ce capital transnational extrêmement mobile qui va chercher à tirer profit des différentiels et des spécificités. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant dans l'article de David Harvey sur l'art de la rente. C'est le fait qu'on parle beaucoup du fait que le capital est mobile et qu'il se déplace dans les endroits où les salaires sont les plus bas. C'est une tendance évidemment extrêmement importante dont il faut parler. Mais on parle moins du fait qu'en fait, le capital va aussi aller dans des endroits où les salaires sont beaucoup plus élevés, typiquement dans les métropoles, dans les mégalopoles, et que ce n'est pas seulement les classes ouvrières des différents pays qui sont en concurrence par rapport aux salaires, ou les États des différents pays qui sont en concurrence par rapport à la fiscalité, mais aussi les villes qui sont en concurrence pour accueillir notamment les centres de commandement, les activités de service, etc.
Effectivement, la métropolisation actuelle, c'est une mise en concurrence assez débridée des fonctions de commandement. Dans cette concurrence, effectivement, c'est là que David Harvey, il arrive à retourner en fait l'argument de la pure annihilation de l'espace par le temps. C'est qu'en fait, ça ne se fait qu'à la condition en fait de fixer le capital dans des infrastructures fixes et localisées. Et comme il le disait, la circulation du capital, elle ne se fait que si on a des infrastructures fixes. Donc en fait, il essaye de compléter en quelque sorte la théorie de Marx à ce sujet. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'effectivement, les villes sont toutes en concurrence. Alors ce qui est marrant, ce qui est d'autant plus marrant, c'est qu'elles adoptent absolument toutes le même type de discours. Donc c'est une contradiction qu'on peut s'expliquer difficilement. C'est qu'il y a une sorte d'uniformisation en fait, du discours métropolitain qui fait que du coup, des villes comme Marseille essayent de ressembler à une métropole. Enfin, difficilement d'ailleurs, ils y arrivent difficilement en utilisant les mêmes recettes. En faisant comme si ça fonctionnait tout le temps, mais c'est pas toujours le cas, heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait il y a quand même des on fait pas une métropole entièrement à marche forcée, enfin ça fonctionne pas comme ça. En fait il y a quand même des habitants, il y a quand même des quartiers, il y a quand même une histoire, et c'est plus compliqué que ça. Et donc là par exemple, il suffit pas d'avoir le discours de la métropolisation pour faire la métropolisation. En fait il faut que l'investissement l'investissement soit rentable, et il faut que les fonctions de commandement, elles existent aussi. Donc, par exemple, à Marseille, c'est moyennement le cas.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est ce que dit David Harvey dans son article dans Ville contestée. C'est le fait que c'est une concurrence. Cette concurrence entre les villes, elle se passe, on peut dire, par analogie à la concurrence entre entreprises. Forcément, c'est les grosses entreprises qui ont déjà... un avantage sur le marché, qui sont les plus favorisées. C'est-à-dire que pour Paris, qui concentre déjà les fonctions de commandement et qui a déjà un capital symbolique collectif énorme, et ben évidemment c'est beaucoup plus facile. Il y a juste besoin en fait finalement de poursuivre entre guillemets cette espèce de, bon, c'est pas tellement une rente pour la ville de Paris, mais enfin cette situation de spécificité, disons, de différence. Oui, c'est une rente touristique pour le coup.
Oui, une rente touristique. Après aussi, effectivement, on peut envisager élargir le concept de rente aux métropoles un peu installées. C'est vrai qu'en fait on capitalise sur l'existant. Et ce qui est intéressant en fait au niveau des villes, c'est qu'en fait on peut jouer aussi sur l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a l'échelle mondiale, mais il y a l'échelle locale. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, une fois qu'on a cette concentration de richesses, on peut toujours jouer sur le développement inégal interne aux villes. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le monopoly se joue. Il y a un monopoly à l'échelle mondiale, il y a un monopoly à l'échelle locale. On peut toujours réinvestir à l'échelle locale. Donc cette concentration, elle se fait sur un terrain à l'échelle locale qui est inégal. Donc on peut toujours jouer là-dessus, en fait. Et c'est vrai que, comme l'objectif, c'est quand même que les investisseurs, certes, prennent des risques, mais n'en prennent quand même pas trop, c'est vrai que la métropole, il y a tout du rassurant. Donc on sait que c'est un lieu de richesse. Compte tenu des grandes inégalités et des décrochages qui arrivent, enfin on le voit bien actuellement dans la situation sociale de la France, les mouvements finalement contre les inégalités, hein, que sont les mouvements des Gilets jaunes, c'est quand même une question avant tout sociale. Il y a des parties de la France qui sont plus du tout, effectivement, pas forcément profitables, en fait, qui ont pas forcément d'intérêt économique, en fait. Donc, on a dans les métropoles, on est à peu près sûr de... Les investisseurs sont à peu près sûrs de récupérer leurs billes. Enfin, voilà, c'est à peu près l'idée, en fait. Oui. C'est à peu près ce qu'on peut imaginer. Sinon, ce serait tellement facile. Disons, on prendrait un endroit vraiment pourri, un territoire de la Creuse, et on se dirait, oh là là, le différentiel de la rente foncière, il est énorme. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y aura jamais... Ce n'est réalisé que s'il y a des activités autour. Et donc, en fait, il ne suffit pas simplement d'un développement inégal. Il faut un développement inégal qui soit fort en promesses futures, en fait.
Bien sûr, c'est pour ça que la ville de Paris, là-dessus, est parfaite aussi, parce qu'il y a aussi, tu parlais effectivement de cette différenciation interne aux villes, donc c'est un différentiel à la fois économique, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles opportunités de rente foncière différentielle avec la banlieue rouge notamment, et il y a aussi le fait qu'il y a une partie de Paris qui peut capitaliser sur le tourisme, une autre qui peut capitaliser sur la finance, les grandes entreprises comme la défense. Donc il y a aussi pour les investisseurs plein de possibilités. Enfin, Paris est une ville relativement sûre pour investir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on y investit massivement et qu'il y a tant de spéculation immobilière à Paris par rapport à ça, quoi.
Alors, j'allais ajouter qu'effectivement tout ça nécessite hautement, mais ça peut faire un peu un pont avec ce qui suit, mais hautement un système aussi de sécurisation. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir s'étendre, le capital doit aussi le faire dans des lieux sûrs, à tout point de vue, sûrs sur le capital, mais aussi sur le retour sur investissement, mais sûrs aussi dans la sécurisation. Donc là, on assiste en fait à des des politiques aussi de sécurité qui sont nécessaires, en fait, à, par exemple, aux méga événements dont on parlait. Pour Rio, il a fallu sécuriser largement la ville, temporairement, hein, parce que les problèmes de criminalité qui existent, hein, qu'on peut pas nier, enfin, de quasi-mafia, bah, ils sont revenus quasiment immédiatement après, en fait. En tout cas, il faut pouvoir sécuriser. Donc c'est là aussi, par exemple, la géographie critique apporte des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a une vraie géographie de la criminalisation, en considérant en fait que l'espace est un outil dans la criminalisation. Si on prend par exemple la consommation de drogue, fort à parier en fait que si on faisait le bilan, la consommation de drogue est à peu près, je ne vais pas dire uniforme parce que c'est jamais uniforme, mais finalement assez bien partagée, c'est une réalité relativement bien partagée. Simplement, en fait, les quartiers qui sont identifiés comme des quartiers de la drogue, c'est surtout les quartiers populaires. Bah, pour la simple et bonne raison qu'en fait, l'espace et les lieux qu'on décide comme étant des espaces criminogènes, ça permet en fait d'aller les contrôler, en fait, ou de considérer qu'on va contrôler essentiellement dans cet endroit. Et donc, quand on contrôle cet endroit, bah, on trouve des infractions. Et quand on trouve des infractions, bah, on peut dire que ce quartier est hautement criminogène. Si on faisait la même chose dans les rallyes du 16e arrondissement ou les soirées du 16e arrondissement, on trouverait sans doute la même chose, mais on ne le considère pas comme étant un lieu criminogène. Donc en fait, ça permet, ce discours aussi sur la criminalité, de contrôler en fait l'espace et d'utiliser l'espace comme un moyen de gouvernement, notamment des classes les plus pauvres.
Oui, c'est pour ça qu'un des auteurs, qui est très intéressant d'ailleurs, qui est un représentant donc un petit peu de la géographie critique marxiste allemande, donc s'appelle Bellina. Voilà, lui il parle de gouvernement par le crime, par l'espace. Et donc il montre ça, c'est un article vraiment très intéressant que je recommande vraiment de lire, qui est assez général et donc ça s'applique à peu près à tout, même s'il prend pas mal d'exemples du coup en Allemagne. Et là je renvoie aussi à une émission qu'on avait fait sur la critique de la sécurité, voilà, qui est aussi quelque chose de très intéressant, notamment sur sécurité, sécurisation des investissements, sécurisation de l'espace en termes de politique répressive, évidemment les deux vont de pair. Et donc lui, voilà, il montre bien comment est-ce que on va en fait nettoyer des espaces publics de certaines populations à l'aide de politiques répressives. Par exemple, il explique que la vidéosurveillance ne diminue pas la criminalité dans les espaces publics, mais par contre que ça a un effet sur le fait que ça va faire partir une partie des populations, les SDF, etc., des populations qui peuvent être qualifiées de criminelles, mais seulement, il le rappelle bien, parce que la criminalité, évidemment, une notion qui est construite socialement, historiquement changeante, etc. Et que, en fait, le principal effet de ces politiques sécuritaires de ville, c'est pas tellement de faire baisser le nombre d'homicides ou de vols, etc., mais plutôt de chasser les populations marginales, les punks, les SDF, etc. Et c'est là, c'est ce qu'on voit aussi à Paris, avec aussi tout le développement à la fois de ces politiques sécuritaires, mais aussi on le voit même dans le mobilier, hein, tous ces dispositifs anti-SDF.
Oui, tout à fait. Et puis c'est surtout que là, en l'occurrence, l'espace peut permettre en fait de créer des lieux spécifiques. C'est-à-dire que par exemple, la consommation d'alcool pose pas de problème devant les bars du 6e arrondissement. Il y a quelques verbalisations, mais la plupart du temps, ou sur le canal Saint-Martin. C'est un quartier où finalement, les gens boire de l'alcool, ça pose pas de problème. Mais il y a plein de villes de banlieue où la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite. Au moins la vente d'alcool, par exemple, après une certaine heure, est interdite. C'est le cas, par exemple, dans le centre-ville de Saint-Denis. Donc, en fait, pour éviter les attroupements, en fait, on a délimité un secteur où on dit, dans ce secteur, il n'est pas possible de boire de l'alcool après une certaine heure. Ou de vendre de l'alcool après une certaine heure, ce qui revient à peu près. Du coup, c'est étonnant, parce que si évidemment on faisait ça sur les berges de Seine pendant Paris Plage, ça serait pas du tout la même histoire en fait. Ça veut bien dire qu'en fait on a une vision en fait de ce qui est possible pour les pauvres et pour les racisés qui est assez différente de ce qui est possible pour les classes supérieures et les blancs. Enfin, disons les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui sont très différentes et ça passe souvent par une sectorisation. Parce qu'on ne peut pas dire, en fait, on interdit les noirs de boire. C'est pas possible. On va pas dire vous êtes noir donc vous ne pouvez pas boire. Donc en fait, ce qui est très souvent le cas en France, on est toujours passé par des sectorisations, c'est-à-dire la zone urbaine sensible. En fait, c'est une manière, en fait, c'est une sorte d'euphémisation des rapports de classe et de race, me semble-t-il. C'est-à-dire que il suffit dans un paysage un peu, on va dire, ségrégué, de délimiter un espace en disant dans cet espace, il n'est pas possible de faire telle et telle chose, parce que c'est un espace très criminogène ou qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc on délimite un espace, on ne cible pas des gens en particulier, mais dans le fond, c'est quand même, ça revient un petit peu à la même chose. C'est-à-dire que, vous voyez, sur le canal, près du canal de Saint-Denis, ça va être assez mal perçu d'aller boire sur le long du canal, parce qu'en fait, c'est surtout des populations immigrées. Mais si vous faites la même chose sur le long du canal Saint-Martin, le samedi soir à Paris, c'est extrêmement bon enfant et sympathique.
Oui, bien sûr. C'est intéressant, cette espèce de gouvernement finalement raciste par l'espace, en fait.
Oui, bah ça, c'est vrai qu'il y a en fait indirectement des politiques éminemment raciales derrière des effets de sectorisation spatiale qui ont l'air d'être tout à fait neutres, en fait. C'est jamais neutre. C'est que c'est jamais neutre, parce qu'on sait bien qu'il y a des fortes concentrations de populations immigrées dans certains espaces. Donc en fait, c'est tout un courant de la géographie critique qui s'intéresse finalement à la manière dont l'espace est utilisé par les forces de l'ordre, par les forces du maintien de l'ordre, comme un outil de contrôle des populations et de contrôle de certaines populations. Ça permet quand même de garder en fait une certaine illusion de l'égalité face à la loi, mais en fait on peut du coup ne pas faire la même chose selon le lieu où on est, mais en fait ça touche essentiellement des catégories de population en réalité.
Ouais, les politiques urbaines, elles sont évidemment pas neutres. Ça me fait penser à l'exemple de la rénovation de Paris sous Haussmann pendant le Second Empire, où évidemment le fait de tracer des grands boulevards, bah évidemment c'est fait pour la bourgeoisie et en cas d'insurrection prolétarienne, et ça détruit des quartiers ouvriers. Voilà, et en fait finalement, soi-disant, c'était pour lutter contre la misère, mais en fait on déplace la misère sociale de quelques rues, et en fait c'est simplement pour la bourgeoisie et pour le développement du capital, avec voilà, les flux qui sont facilités. Et pour une éventuelle répression.
Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la bourgeoisie ou les classes dominantes ont souvent une stratégie spatiale qui n'est pas évidente de prime abord. Et que c'est pour ça que les mouvements en réaction doivent avoir aussi des stratégies plus spatialisées en réalité. Parce qu'en fait, face aux mouvements sociaux, en fait, on a des stratégies très spatiales quand on regarde bien. Bon, il suffit de revoir les manifestations du mois de novembre à décembre 2018 pour les Gilets jaunes. Enfin, on a bien vu que le nerf de la guerre, c'était les stratégies de confinement spatial des manifestants, de où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on les guide, où est-ce qu'on les amène, etc. C'est très spatial. Et donc, je connais des gens qui travaillent en France, hein, sur vraiment les outils spatiaux de la police et de la gendarmerie. Ils ont leur propre système de cartographie, leur propre appréhension de l'espace. Et il y a toute une sorte d'ethnographie de la police, en fait, de comment la police intègre les questions spatiales, les cartes, les systèmes d'information géographique, etc. etc. Et comment elle les utilise et comment elle s'en empare.
Oui, c'est pour ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu, on pourrait dire, un enseignement de la géographie critique assez général, c'est que la production de l'espace, enfin l'espace n'est pas une réalité neutre, que la production de l'espace, elle est historique, elle est liée à des rapports de classe, de race, à des politiques étatiques, à des restructurations du capitalisme, et que aussi même les représentations spatiales ne sont pas neutres, mais que derrière il y a des agendas idéologiques, des réalités matérielles, et que tout le discours, en fait, par exemple autour de la métropole, etc., etc., c'est pas un discours neutre, et que, enfin, en tout cas, on espère à l'issue de cette émission que ce sera plus facile, disons, de décoder un petit peu les discours sur les transformations urbaines, et aussi d'être mieux armé théoriquement pour comprendre ces transformations urbaines qui ont lieu depuis 40 ans, mais aussi aujourd'hui. Et que ça sera aussi évidemment des outils pour lutter contre ces transformations capitalistes de l'espace. En tout cas, merci Cécile de nous avoir parlé de la géographie critique.
Merci.
Sans doute, L'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.